Bonjour, vous êtes entraîneur, animateur ou formateur sportif? La relation client est une dimension de plus en plus essentielle de votre métier. Aujourd'hui, nous allons parler de fluidifier la relation avec nos interlocuteurs pour la deuxième session. Et notamment, nous allons nous appuyer sur cinq grandes lignes directrices. La prise de conscience de nos modes de fonctionnement préférentiels, nos zones de confort, nos zones de maîtrise aussi. Identifier le profil de notre interlocuteur, adapter notre comportement et notre discours, et gérer la diversité des profils. Quel est le programme de cette deuxième session? Règles de communication, questionnement fermé et questionnement ouvert, les différents types de questions, les entonnoirs de vente, le questionnement en stratégie et écouter. Les règles de communication, pourquoi? Parce qu'il est toujours utile de les rappeler et de bien se les approprier. Le questionnement fermé et le questionnement ouvert, car dans notre cycle de vente, nous allons passer à découvrir l'autre, s'intéresser à l'autre, donc lui poser des questions et les questions fermées et les questions ouvertes sont naturellement celles que nous utilisons le plus, donc il faut bien qu'on comprenne comment est-ce qu'elles fonctionnent et où et quand et pourquoi les utiliser. Les différents types de questions, car il y a d'autres typologies de questions que les questions ouvertes et les questions fermées neutres. Le questionnement en stratégie, quand on questionne, par quoi est-ce qu'on commence et jusqu'où va-t-on? Et puis l'écoute, je vous proposerai et il vous sera proposé en fin de cette vidéo, un test d'écoute, car l'écoute est la toute première qualité que dans le cadre d'une relation client, nos interlocuteurs attendent de nous. C'est d'ailleurs la même chose que nous attendons d'eux, donc tout va bien. La durée de notre séance, 2 heures. Règles de communication, il existe un certain nombre de freins et d'accélérateurs de communication qui, tels des feux rouges ou des feux verts, soit nous empêchent d'avancer, soit nous permettent d'avancer. Nous en avons identifié trois freins, trois accélérateurs que nous allons appeler trois conditions et avant cela, trois tentations. Et nous allons commencer tout de suite par les tentations. Première tentation, c'est la confirmation. La confirmation, elle est basée sur l'a priori de l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'a priori? C'est la tendance que nous avons à émettre des jugements, des opinions, sans aucune analyse préalable basée sur des faits. La confirmation, c'est d'aller chercher dans l'information, c'est d'aller chercher partout, à se faire confirmer nos a priori. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on a raison ou si on a tort, ce n'est même pas la question. On voit les choses comme ça et de toute façon ce n'est pas autrement. Et ça nous permettra d'ailleurs de dire aux autres, tiens, tu vois, je te l'avais dit. Des exemples d'a priori, il y en a plein. Alors lui avec sa tête, ça va pas le faire. Eh bien, je vais tout faire pour que ça ne le fasse pas. Lui, la prochaine réunion, il va m'embêter. Eh bien, la prochaine réunion, je vais le chercher pour qu'il m'embête. C'est pas en 2 heures de vidéo, là, avec Hugues Rabreau sur la relation client que je vais apprendre quoi que ce soit. Je vais tout faire pour vous démontrer que ce qui est dit dans cette vidéo, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Et etc., etc. Ce besoin de confirmation est un besoin, une tentation terrible. On le voit aujourd'hui d'un point de vue social, politique, les discours qu'on a autour de nous sont beaucoup ancrés sur le besoin de confirmation des gens. Pour éviter d'être dans la confirmation, pour éviter de penser, quand je ne sais pas, le meilleur réflexe, ça a toujours été le même, c'est de demander. Tu ne sais pas, tu demandes. Donc, du coup, quels sont ou quel est l'outil principal ou la dimension principale qui permet de lutter contre cette tentation, c'est l'ouverture à l'autre. Et l'ouverture à l'autre, c'est ce que nous faisons avec nos amis, notre famille, nos enfants, du moins je l'espère, avec nos proches. Questionner, écouter, prendre en compte et creuser. Ou écouter, prendre en compte, creuser, écouter, prendre en compte, etc. C'est la meilleure façon de lutter contre ce besoin de confirmation qui est une tentative tordue de transformer et de vouloir transformer la priorité, l'a priori, en réalité. La priorité, l'a priori, en réalité. Deuxième tentation, l'opposition. Cette tendance que nous avons à nous opposer à l'avis de l'autre, tout simplement parce qu'il est différent, il ne pense pas comme moi, il ne voit pas les choses comme moi. Comment c'est possible? Je sais que c'est moi qui ai raison, donc lui il a tort. Donc du coup, je lui fais « oui, mais ». Et le « mais » va durer longtemps alors que « oui » c'était juste un mot. Ou alors je lui fais « non, je ne suis pas d'accord ». Ou alors je lui coupe la parole. Lorsque je coach quelqu'un, 10 fois par jour, il coupe la parole. Et pourtant, il sait que je suis là, en train de le driver. 10 fois par jour. Ça fait 210 fois à la fin du mois, pratiquement 250 à la fin de l'année. Ou plutôt 2500 d'ailleurs. 12 fois 210. 2500 à la fin de l'année, 25 000 fois. Au bout de 10 ans, c'est juste énorme. On coupe la parole sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ou alors l'autre a à peine fini de parler, qu'on part tout de suite sur autre chose, histoire de lui montrer, 1, c'était très intéressant ce que vous disiez, et 2, pendant que vous étiez en train de finir de parler, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je vais dire, car c'est moi qui ai raison, donc c'est plus important. Si vous faites ça à quelqu'un, vous allez créer de l'opposition, consciente ou inconsciente, comme on l'a vu dans une vidéo précédente au travers de l'être humain est un iceberg avec la partie au-dessus de l'eau ou la partie en dessous, mais ça va arriver. Je vous rassure, si vous faites de l'opposition, vous allez avoir soit de l'indifférence, soit des objections. Donc, votre objectif de concrétiser une relation client va se compliquer. Pour éviter d'être dans l'opposition, nous avons tous, normalement, du moins je vous le souhaite, nous sommes dotés de 2 outils. Ces 2 outils sont à ce niveau-là de notre visage. Ce sont les oreilles. Et les oreilles, ça sert à comprendre. Sans écoute, je ne peux pas comprendre. Troisième tentation, la justification. Une terrible maladie appelée également l'excusite. Cette formidable capacité qu'ont certains à nous expliquer et à se justifier en face de quelque chose qu'ils ont fait, d'ailleurs la plupart du temps par rapport à quelque chose qu'ils n'ont pas fait ou pas bien fait, alors qu'on ne leur a rien demandé. Nous avons tous le droit à l'erreur. Évitons de nous justifier. Si vous avez raté quelque chose, passez pas une demi-heure à nous dire que c'est de la faute des médias, que c'est de la faute du marketing, que c'est de la faute du produit, que c'est de la faute de votre président, que c'est de la faute de ceci ou de cela. Ça ne nous intéresse pas. Quand quelqu'un vous fait ça, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, même si on est poli, ce qui nous intéresse surtout, c'est « ok, on fait quoi ?» Donc, pour éviter de vous justifier, assumez. 3 tentations, la confirmation, pour éviter d'y être, Ouverture, questionner, écouter, prendre en compte, creuser sont les principaux outils. Pour éviter d'être dans l'opposition, écouter et d'écouter l'autre jusqu'au bout. Pour éviter d'être dans la justification, assumer. Fort heureusement, face à ces trois tentations, il y a trois accélérateurs de progrès, trois conditions favorables. Et la première de ces conditions, c'est l'analyse. Si vous êtes aujourd'hui entraîneur, formateur sportif, coach sportif, animateur, vous avez les capacités d'analyse. Et l'analyse, c'est ce qui va favoriser les conditions d'entraînement favorables à un bon résultat en compétition. L'analyse, c'est notamment dans le cadre de la relation client, se servir d'un outil comme la matrice SWOT, identifier quelles sont mes qualités. Par exemple, première qualité, c'est de m'auto-analyser et de dire sur l'impact, la qualité de la relation, je suis bon. Sur la découverte, m'intéresser à l'autre, je suis bon. Mon expertise, je la maîtrise. Voilà trois forces. Du coup, qu'est-ce que je fais de ces trois qualités? Je peux chercher à les améliorer ou non? La réponse est sans doute oui. Ce sera le tout premier travail. Déjà, d'identifier où est-ce que je suis fort. Parce que plus je sais où je suis fort, plus je suis fort. Moins je le sais. Or, nous sommes dans une société qui a plus tendance à capitaliser sur les zones de vigilance, les points qui ne vont pas, plutôt que sur ce qui va. Rappelez-vous, quand vous étiez petit et que vous avez fait une dictée, en quelle couleur étaient soulignés les mots où il y avait une erreur, où il y avait une faute, et en quelle couleur étaient soulignés tous les mots qui étaient bons. D'ailleurs, vous me direz s'ils étaient soulignés en quoi que ce soit. Une fois que nous avons identifié ce travail de force, quelles sont nos faiblesses, nos zones de vigilance, nos points d'amélioration? Eh bien, j'ai identifié que sur mon traitement d'objection, ma capacité à conclure, c'était pas ça. Bien. Eh bien, du coup, si je capitalise sur ma capacité à créer une bonne relation, à m'intéresser à l'autre, et puis à savoir maîtriser mon argumentaire, mon expertise et à savoir en parler, et que je développe ces qualités, et qu'en plus, je m'améliore sur le traitement d'objections et de ma capacité à conclure, et que je continue à m'améliorer tout le temps et tout le temps sur ces forces et ces faiblesses, à un moment, je vais atteindre un certain niveau qui va me permettre de me fixer des challenges et d'atteindre un certain nombre d'opportunités. Bien, lesquelles et pourquoi? Du coup, comment je vais faire? Maintenant, si je ne m'appuie pas assez sur mes qualités et que je ne travaille pas du tout mes défauts, c'est-à-dire que si je ne m'appuie pas assez sur la qualité de mon relationnel, si je ne m'appuie pas assez sur ma capacité à découvrir l'autre, à m'intéresser à l'autre, si je ne m'appuie pas assez sur mon niveau d'expertise, et qu'en plus de ça, je ne travaille pas mon traitement de l'objection ou que je ne m'améliore pas dessus, et non plus d'ailleurs sur ma capacité à conclure, qu'est-ce qui risque de se passer? Quelles sont les menaces qui sont autour de moi? Et si à un moment, il s'avérait que vous avez lâché sur vos forces et vos faiblesses et que les menaces avaient grandi, vous avez toujours votre capacité d'analyse et de vous poser ne serait-ce que la question suivante, qui est une bonne question: comment puis-je transformer telle ou telle menace en opportunité? Une fois que vous avez fait tout ce travail d'analyse, et l'analyse c'est dur parce que ça veut dire sortir le nez du guidon. C'est principalement ça que ça veut dire, poser les valises. Or, on est tout le temps en train de courir. Mais si vous courez tout le temps et que vous ne prenez pas le temps de l'analyse, vous allez courir tout le temps. Une fois que vous avez fait ce travail d'analyse, prenez les décisions qui s'imposent. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez montrer? Et où qu'allez-vous faire également à votre interlocuteur pendant le prochain rendez-vous? Et ce que vous allez dire, faire, montrer ou faire faire est bien évidemment fabriqué, conçu à partir de toute la matière que vous avez récoltée lors de votre analyse. Et décider, c'est faire preuve de courage. Il va souvent vous falloir faire des choix. Or, choisir, c'est aussi renoncer. Il va falloir prendre des options. Or, on a rarement à choisir entre une bonne et une mauvaise option. On est plus souvent en train d'hésiter sur quelle est la meilleure des deux ou quelle est la moins mauvaise. Une fois que vous avez décidé, il vous reste à le faire, donc à réaliser ce que vous avez décidé. C'est de la cohérence, dire ce que vous aviez prévu de dire, faire ce que vous avez prévu de faire, faire faire ce que vous avez prévu de faire faire, montrer ce que vous avez prévu de montrer. À vous de jouer. Et une fois que vous aurez fait ça, en auto-analyse après votre prochain rendez-vous de relation client, vous allez analyser comment vous avez fait. Est-ce que vous avez bien dit tout ce que vous aviez prévu de dire, fait faire ce que vous aviez prévu de faire faire, fait ce que vous aviez prévu de faire, montrer ce que vous avez prévu de montrer. Normalement, ça doit être oui, du moins à 90%. Ce qui nous laisse encore de la marge pour s'améliorer. Et en auto-analyse, il est probable qu'à un moment, vos qualités se seront améliorées et que vos points de vigilance aussi auront changé et que vous pourrez aller beaucoup plus loin. Et donc vous prendrez d'autres décisions et vous les mettrez en application et vous les analyserez. Ceci est un cycle ou un cercle vertueux de communication. Ces trois conditions, analyser, décider et agir, réaliser, sont tout à fait cohérentes et elles vous permettent d'éviter d'être dans les trois tendances ou trois tentations que sont la confirmation, l'opposition et la justification que nous avons vues précédemment. À chaque fois que vous êtes dans une de ces trois conditions, vous faites du bon travail. Pour être performant dans la relation client, que ce soit sur les aspects séduction, sur les aspects conviction, sur l'aspect développement ou l'aspect fidélisation, plein de qualités sont nécessaires. Maintenant, pour avoir coaché plus de 2000 personnes, et sans doute beaucoup plus, un constat, c'est que parmi toutes les qualités, les meilleures, ils en ont trois. Et ils ont les trois mêmes. 1. Ils maîtrisent leur cycle de vente. Et c'est le béaba, c'est la base, c'est votre socle. Sans cette maîtrise du cycle de vente, même si vous avez un superbe relationnel, vous n'y arriverez pas. Sauf dans certains cas. Mais d'un point de vue quantitatif, vous n'y arriverez pas. La maîtrise du cycle de vente, à partir de cette maîtrise, justement, sachant que vous êtes différent, que tout cet individu est différent, qu'il a des partis pris, des choses à dire et une personnalité, celle-ci va complètement s'exprimer sur la base de la maîtrise de votre cycle de vente. Donc, 1. Maîtriser son cycle de vente et 2. Avoir une personnalité et d'exprimer ses différences. 3. À partir de là, d'être capable d'oser et d'aller challenger les clients. Les meilleurs dans la relation client aujourd'hui maîtrisent ces trois impacts. Sur le cycle de vente, après la préparation, lorsque nous sommes en contact avec notre interlocuteur dans le cadre de la relation client, c'est impacter d'abord, ensuite découvrir. On découvre, on s'intéresse à l'autre, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Et puis ensuite, on lui fait des propositions, On argumente autour de nos propositions, on discute, on échange, il y a des objections, on les traite. Derrière, il faut négocier, parce qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose et que il faut bien qu'on voit dans quelles conditions on va le faire. Et puis derrière, on conclut et puis on prend congé. Chacune de ces étapes nécessite une maîtrise technique importante. C'est à partir de cette maîtrise que vous allez pouvoir exprimer toutes vos différences et aller challenger encore mieux les clients. Quand vous aurez toute cette maîtrise, si vous avez une vraie personnalité, des vraies différences, vous irez challenger les clients, notamment si vous osez. À partir de là, vous ferez partie des meilleurs et c'est tout l'objectif de cette vidéo. Vendre de la valeur, c'est ce que nous avons vu dans une vidéo précédente. Lorsque nous sommes au socle de notre pyramide, car c'est une pyramide, le socle, c'est quoi? C'est d'avoir un produit, une démarche avec de la qualité, avec un certain délai, avec des prix qui tiennent la route. Si on est complètement hors concours en termes de prix, si en délai on n'est pas capable de réagir dans les délais souhaités par le client, si la qualité est mauvaise, si notre produit ou notre service est minable, bon, bah écoutez, on aura beau aller faire une superbe découverte, ce ne sera pas suffisant. Donc ça, c'est le socle. Or, aujourd'hui, dans le cadre de votre activité, vous avez, puisque vous souhaitez engager une démarche de relation client, vous avez quelque chose de qualité, avec un certain délai et un certain prix qui sont cohérents avec le marché, à aller proposer. Deuxième étage, du coup, puisque sur ce socle-là, vous avez du concurrent. Il y a dans vos services un certain nombre de services, une façon de faire qui vous sont propres et qui sont propres à votre structure. Donc cela vous différencie déjà. Et de plus, vous avez de la crédibilité grâce à ce que vous avez déjà réalisé, à vos références. Et si vous pouvez les citer, citez-les. Si elles sont connues, c'est encore mieux. Ça peut être aussi la notoriété de votre marque, la notoriété de votre club, ça peut être une image qui a été bien véhiculée, vous êtes connu, vous êtes reconnu, il y a des implantations, bien, il y a des infrastructures, voilà. Ça apporte de la crédibilité et du service et vous avez nettement moins de concurrents à cet étage-là. Maintenant, pour passer et pour être retenu, il faudra aller au-delà de l'étage suivant, c'est-à-dire de montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous en avez l'expertise, à partir de là, qu'également en termes de relationnel, et là c'est le début de cette partie subjective qui a trait à votre personnalité, qui fait que vous plaisez ou non à votre interlocuteur, et un degré de confiance en vous commence à s'imprégner et à s'insérer dans l'esprit de celui qui est en face de vous. Il commence à vous accorder de la confiance. À partir de là, ce serait dommage, puisqu'ici on a encore deux ou trois concurrents sur un même sujet, de ne pas découvrir quels sont les objectifs et les enjeux et le pourquoi des choses chez nos interlocuteurs de manière à améliorer leur performance, car je n'ai jamais été dans une relation client rencontrer quelqu'un pour lui vendre quelque chose. J'ai toujours été rencontrer quelqu'un pour savoir en quoi est-ce que je pouvais l'aider et comment est-ce que je pouvais transformer ses objectifs, ses enjeux en résultats. Et figurez-vous que c'est comme ça que j'ai bien vendu. Derrière la tête de pyramide, souvent on est tout seul là, parfois il n'y a même pas besoin d'y aller. Faire réussir votre client, c'est vous faire réussir. Ça peut le faire réussir dans sa dimension personnelle, que ce soit dans la structure, mais parfois aussi également en dehors de la structure pour laquelle vous venez le voir. Nous avons vu cette pyramide, nous avons également vu la sphère du client. Je peux questionner quelqu'un sur ses projets, ses passions, son entreprise, lui, son job, son contexte, sur plein de thèmes. Mais si je le fais par rapport à mes objectifs à moi, suis tel un vendeur qui vient vous vendre quelque chose, c'est juste énervant, ça a 95% d'intérêt pour le vendeur, mais ça a 5% d'intérêt pour celui que vous venez rencontrer. Et ça va générer de l'indifférence et des objections. Par contre, sur les mêmes thèmes, tout en évitant ce carton rouge, on peut questionner sur ses passions, sur lui, sur son entreprise, sur son contexte, sur ses projets, mais non pas de le questionner en étant focus sur nos objectifs à nous, mais en étant focus sur les siens, ce qui nous oblige d'ailleurs à les découvrir, à l'en faire parler. Rappelez-vous, l'histoire qui intéresse le plus un client, c'est la sienne. Donc si vous êtes focus sur ses objectifs à lui, ça va vous permettre de construire une offre beaucoup plus pertinente. Et ça s'appelle entrer dans la sphère de l'autre et ses créateurs d'ouverture et de partenariats multiples. Pour cela, premier outil, le questionnement fermé et le questionnement ouvert. Pourquoi premier outil? Parce que c'est la première chose que l'on utilise en questionnement. Ce sont les questions fermées et les questions ouvertes. Alors, ici vous avez la liste de nos 10 meilleurs amis. Quoi, quand, qui? Que, Q, apostrophe, combien, pourquoi, où, comment, lequel, laquelle, lesquels et quels.